étrange pouvoir, mais n'est-ce pas une malédiction? Cela a commencé un soir, j'avais à peine l'âge de raison. J'étais plongé dans un roman de la bibliothèque rose. Quand j'ai vu qu'il y avait des gens avec moi dans la chambre close.
Bonsoir, c'est le... Bienvenue sur Radio B dans Roman de Gare, l'émission consacrée à l'écriture et à la lecture. Un jeudi sur deux à 18h30, voire un petit peu avant, je vous propose de retrouver une autrice ou un auteur. Nous parlerons de ses livres et de sa passion pour l'écriture. Sans oublier nos coups de cœur, les propositions de la quinzaine et les dates de séances de dédicace dans la région proche. Pour cette 29e édition de Roman de Gare, j'ai eu le plaisir d'accueillir l'écrivaine caladoise Sylvie Calais dans le dernier roman Poupée est paru le 5 novembre 2024 aux éditions Caïman. Sylvie, bonsoir.
Bonsoir.
J'ai coupé le micro. Quand même, tu préfères le mot auteur, autrice, écrivaine ou romancière lorsque on te
Alors,
présente?
Moi, j'aimais bien écrivaine après le mot officiel en vigueur et le mot autrice, acteur, actrice, auteur, autrice. Ça a une logique au moins grammaticale.
Ouais.
Donc, je l'emploie aussi. Je sais qu'il y en a qui ne l'aiment pas du tout, mais je pense que c'est parce que notre oreille n'est pas habituée.
Mmh.
Je peux dire quand même que j'étais très contente d'entendre Chris Lehache juste avant. Et une chanson que je ne connais pas alors que je connais beaucoup de ses chansons. Et voilà, Chris intervient dans notre association à Villefranche pour animer un super stage, écrire et interpréter une chanson. Et il intervient là en février. Donc voilà, j'étais très heureuse de l'entendre.
On en parlera s'il nous reste du temps. Bien, alors ta première venue à Radio B date du mercredi 12 avril 2023 dans le magazine, à l'occasion de la sortie le 12 janvier de la même année de ton roman Fatoum aux éditions du Caïman. Alors il n'est pas passé inaperçu.
Non, c'est vrai.
Finaliste en 2023 pour le prix du roman noir des bibliothèques et médiathèques du Grand Cognac.
Oui.
Prix d'Ora Suez 2023 dans la catégorie Lyon Polar.
Oui.
Et de nombreux avis élogieux sur les réseaux sociaux. On vit comment cette reconnaissance, même si ce n'est pas ton premier prix littéraire?
Oui, mais c'est quand même voilà, celui qui a eu le plus de retentissement, on va dire. Il a été aussi finaliste pour le prix Chien Jaune à Concarneau en 2024, ce qui nous a valu d'être invités à Concarneau. C'était très chouette.
Mmh.
Et ben, on le vit bien, on est un peu étonnés quand même. J'avais pas l'habitude d'autant de reconnaissance et en même temps j'avoue que c'est très agréable voilà, d'être lu et de sentir que ce qu'on a écrit peut toucher certaines personnes. Alors ça plaît pas toujours à tout le monde, mais en tout cas voilà, il y a quand même des gens qui ont voté pour ce livre, qui l'ont défendu. Ça fait vraiment chaud au cœur.
Tu as senti qu'on s'intéressait un peu plus à toi que d'habitude avec Fatoum?
Bah, mon écriture, oui, effectivement.
Mm-hmm.
Effectivement, avec Fatoum, qui est publié aux éditions du Caïman, qui est quand même une maison d'édition de littérature noire qui a pignon sur rue, bah, j'ai senti qu'il y avait ça constituait un tournant.
Tu as eu l'occasion de présenter donc Fatoum à de nombreux salons et médiathèques. Enfin, nombreux, oui.
Pas mal de salons, oui. Quelques médiathèques, oui. Quelques librairies aussi.
Oui. Donc, tu as même été invité à un salon du polar, celui de Chap, bah, tu le disais, enfin celui de Concarneau, mais aussi celui de Chapolar en octobre dernier.
Chapolar, oui, effectivement.
Donc Fatoum n'est pas un polar au sens premier du terme. Tu revendiques, toi, cette étiquette?
Alors, en fait, dans la littérature noire, il y a plusieurs sortes de, on va dire, de sous-catégories. Il y a les polars, mais il y a aussi les thrillers et il y a les romans noirs. Et pour moi, Fatoum est vraiment un roman noir. C'est un peu différent d'un polar, mais ça fait partie des littératures noires.
Mmh. Donc, salon du polar, ouais.
Comment? Oui.
Salon du polar.
En fait, les salons du polar, c'est en général, c'est salon de littérature noire.
Oui.
Voilà,
ouais.
Ça regroupe parce qu'il ne différencie pas polar, thriller, roman noir. Ça rentre quand même dans la même catégorie en général.
Ouais. Donc, l'avant-dernière invité de Roman de Gare était Bernard Courtebras.
Oui, je connais Bernard Courtebras.
À qui tu as fait relire son livre. Tu es intervenu en tant que coach littéraire avec lui.
Effectivement,
alors,
oui.
Comment s'est passée la rencontre et le travail autour de son roman?
Alors, ça date un peu, mais ouais. C'était très... comment dire, ça a porté ses fruits, je pense, parce qu'il était prêt à accepter mes retours. Donc, moi, je me positionne en tant que lectrice. Et coach littéraire, effectivement, je fais des retours assez pointus sur la construction, sur les personnages. Voilà, je me rappelle avoir proposé d'intervertir deux chapitres parce qu'il me semblait que dans la chronologie, ça passerait mieux. Enfin, après, j'ai plus un souvenir très précis, mais je me souviens qu'il... Après, moi, je fais des propositions. Hein, c'est l'auteur ou l'autrice qui dispose. Mais je me souviens qu'il avait bien adhéré aux propositions que je lui avais faites. Mmh. Donc je suis contente si son livre a du succès.
Alors, l'avis de Bernard Cotobras est tout à ton honneur, je cite, un travail d'expertise de qualité. Les remarques et les conseils formulés sont de nature à améliorer le texte initial. Les échanges ont lieu dans un contexte bienveillant, respectueux et sécurisant. C'est un vrai travail d'éditrice que tu proposes. Cela veut-il dire que certaines maisons d'édition ne font pas le leur, et je ne parle pas uniquement du contenu rédactionnel?
Alors, moi, j'ai pu par le passé publier chez des éditeurs qui, voilà, à part la correction orthographique, ce qui est déjà pas mal, mais voilà, ne prodiguer aucun conseil. Et c'est assez frustrant. C'est pour ça que je suis très contente d'être aux éditions du Caïman, parce qu'il y a un vrai regard. Il y a trois relecteurs, dont l'éditeur, qui questionne à la fois le texte, le contenu, la cohérence, qui donne des conseils, qui font des propositions, toujours dans l'objectif d'améliorer l'écrit, bien sûr. Et pour moi, c'est très précieux comme accompagnement.
Les éditions du Caïman, bon, c'est une petite maison d'édition stéphanoise qui a, comme la plupart d'entre elles, hein, j'imagine, des problèmes pour joindre les deux bouts. Alors, c'est encore le cas en 2025. Hein, Jean-Claude Nougaro, ton éditeur, lance un nouvel appel à l'aide en proposant de précommander sur leur site internet www.éditionsducaïman.fr tout ou partie des 5 prochaines parutions afin de les financer. Alors, sans ces éditeurs, il n'y aurait pas d'autrice et d'auteurs. Ils sont comme les petites librairies indispensables à la vie littéraire en France.
Oui, c'est juste Jean-Louis Nogaro.
J'ai dit
tu
quoi
as dit Jean-Claude.
J'ai écrit Jean-Claude.
Jean-Louis Nogaro. Oh,
excusez-moi, Jean-Claude.
C'est voilà, lui et puis ses acolytes, Philippe Paternoli, oh. Daniela Kakpo. Mmh. Voilà, ils se donnent vraiment beaucoup, ils travaillent vraiment beaucoup. Ouais. En même temps, tout a augmenté, les prix du papier, de l'impression, les subventions ont baissé dans le même temps. Quand ils en ont. Donc c'est très difficile, pas juste pour cette maison d'édition-là, mais pour toutes les petites et moyennes maisons d'édition, de tirer leur épingle du jeu et de s'en sortir. Alors qu'effectivement, ils sont indispensables pour la diversité, on va dire, de l'offre culturelle en
France.
De toute
façon, sans eux, la plupart des auteurs et d'autrices, même connus maintenant, ils ont commencé pas chez eux, quoi.
Ben,
la plupart.
Il y en a qui ont directement commencé chez plus grands groupes.
C'est quand même rare. Quoi.
Mais ouais. C'est vrai qu'il y a un peu la mainmise des grands groupes. Mmh. C'est même dans les librairies, voilà, ils imposent un peu leurs livres, et il reste quand même peu de place pour les maisons d'édition qui sont moins grosses.
Mmh. Le monde de l'édition est à l'image donc, du monde en général, hein, tout pour une minorité et puis les miettes pour l'immense majorité. Tu aurais forcément envie d'être édité, toi, par les grandes éditions?
Bah, disons que ça a un avantage par rapport au fait d'être, comment dire, d'avoir plus de visibilité, de pouvoir aussi, soyons clairs, à obtenir des lectures, des conférences qui sont rémunérées, des choses comme ça. Après, j'avoue que moi, j'ai vraiment... Pour moi, les éditions du Caïman, j'ai envie de les défendre parce que voilà, ça vient du cœur. C'est vraiment des gens engagés qui croient en ce qu'ils font. Donc pour moi, c'est très important aussi.
Voilà. Donc Jean-Louis Nogaro, hein, le travail est fait. On a parlé de... Hein, voilà. Donc il faut aller sur leur site et puis commander les 5 prochains bouquins.
Oui, hein. Il y a des super polars, là, super paniers polars avec Maria P. Miskitelli, James Solin, Didier Esposito... Patrick Arnelotti, que je ne connais pas encore. Enfin, y a vraiment des super livres. Il y a aussi tout un recueil de nouvelles sur une nouvelle collection qui s'appelle Les Villes Noires. Et là, c'est sur Saint-Étienne. Donc Saint-Étienne-Noir. Voilà. Et donc, c'est une super collection à découvrir.
Alors, pour revenir à l'écriture, dans ton dernier livre, Fatoum, était un roman noir. Avec Poupée, tu voulais forcément continuer dans cette voie.
Alors, Fatoum, pour moi, était un roman noir à dominante sociale. Parce que ça mettait en scène des jeunes des quartiers, pas seulement, mais voilà, c'était deux histoires en parallèle et l'histoire principale mettait en scène ces jeunes-là, avec en pointant les dysfonctionnements un peu sociétaux. Pour Poupée, je suis allée quand même un peu dans une autre voie. Je suis toujours dans le roman noir. Pour moi, c'est un roman noir psychologique, parce qu'il parle d'emprise, de manipulation, de dysfonctionnements plutôt familiaux, dans le couple ou amoureux. Et puis aussi, j'avais ce pari, cette gageure d'avoir une écriture très travaillée, presque poétique, ce qui n'est pas très courant dans la littérature noire, qui peut être... enfin, moi, j'ai bien vu les réactions. Ça peut être mal perçu par certains et ça en enchanté d'autres. Mais pour moi, j'avais envie de faire ce travail esthétique d'écriture.
Alors, l'écriture de poupée, t'as pris plus de temps que les autres
pas, Fatoum, non, on m'a pas pris plus de temps que Fatoum parce que, mine de rien, je travaille beaucoup, je retravaille beaucoup mes pages. Voilà, je suis capable d'écrire 10 fois, réécrire 10 fois la même page. Tant que je ne suis pas satisfaite, tant que ça ne sonne pas comme je veux que ça sonne. Il y a aussi un côté musical pour moi dans l'écriture, donc je lis mes pages à haute voix et... Donc ça, voilà. Et non, ça m'a pris. Alors, ça m'a pris à peu près une année pour le premier jet, hein, sachant que je fais beaucoup d'autres choses à côté. Donc, je peux pas ne faire que écrire. Mais je crois que ça m'a pris à peu près le même temps. Après, il y a tout le travail une fois que c'est envoyé à l'éditeur de va-et-vient avec 3 relecteurs. Et ben, il y a beaucoup de corrections à apporter, de modifications à faire. Il faut tout relire pour voir si on n'a pas enlevé un élément important ou un indice important, parce qu'il y a quand même un suspense aussi dans Poupée. Donc, mais je pense que oui, on va dire une bonne année.
Alors j'imagine que tu as fait lire Poupée en premier à ton premier lecteur, ton mari, Jean-Michel Debilly, qui exerce un autre art, lui, la sculpture. Ah ben, ça tombe bien, il est avec nous ce soir. Jean-Michel, bonsoir.
Bonsoir.
Alors, quelles ont été vos premières impressions, Jean-Michel, lorsque vous avez fini la lecture de Poupée?
On était dans un univers très très différent du premier roman. Bien sûr, moi... connaissant Sylvie depuis très longtemps, donc j'ai une approche assez différente parce que je reconnaissais ses références, ses lieux. Donc c'est une vision assez partielle, mais j'ai été embarqué par ce livre, tout à fait.
Alors quel est votre regard, celui de Marie, mais aussi celui de lecteur et d'artiste?
Bah, c'est surtout, oui, un regard de lecteur, en premier. Avec un univers que je retrouve, avec des références que je connais, mais je suis avant tout un lecteur dans ce cas-là.
Alors, qui est le plus demandeur de votre avis? C'est vous, c'est Sylvie?
Ben, Sylvie me fait l'honneur de m'offrir sa première lecture, donc oui.
Je pense que vraiment, c'est important d'avoir quelqu'un en qui on a confiance. Je sais qu'il sera bienveillant, mais si ça ne lui plaît pas, il me le dira. Donc, c'est important aussi parce que voilà, je sais qu'il sera franc, il sera honnête. Et c'est vrai qu'on a ce partenariat-là entre nous, puisque quand Jean-Mi crée des sculptures, c'est vrai que je lui donne aussi mon avis et je lui donne de façon sincère. Après, voilà, je pense qu'on se respecte, on s'estime et on s'admire l'un l'autre. Mais s'il y a des choses qui ne fonctionnent pas pour nous, on sait se le dire aussi.
Il y a des choses qui ne fonctionnaient pas dans Poupée?
Sur la première partie, c'est vrai qu'on a... Je l'ai poussée à élaguer un petit peu. Et je crois qu'elle m'a suivi dans ses recommandations.
Oui, voilà, il y avait des longueurs et j'étais d'accord avec cette analyse. Parce que c'est toujours bien d'avoir un œil extérieur. Au bout d'un moment, on a la tête dans le guidon, on ne voit plus. Et on ne voit plus l'ensemble. Et du coup, c'est important d'avoir cet œil-là, en fait.
Bien. Alors Sylvie, Poupée, ton nouveau roman donc, est paru le 5 novembre 2024 aux éditions Caïman. Alors, peux-tu nous raconter, sans trop en dévoiler, l'histoire de ton nouveau roman?
Ouais. Alors juste, il devait paraître le 5 novembre, j'aurais été super contente. C'était le jour de la Saint-Sylvie, mais il a eu du retard.
C'était le 5 donc, décembre,
non, il est paru, je crois, le 20, fin novembre. Bon, bah, c'est toujours en novembre, oui. Mais fin novembre.
Bien.
Et donc, l'histoire, c'est une jeune fille, une jeune femme de 25 ans, Laurie, qui s'est un peu éloignée de ses parents, qui vivent dans le sud de la France, et qui n'a plus de travail et qui est obligée de revenir vivre chez ses parents faute de moyens. Elle n'en a pas très envie parce qu'elle a un père très autoritaire, une mère très soumise, sous emprise, donc un environnement assez toxique. dans lequel elle va être obligée de se retrouver après être partie quelques années. Et à partir de là, il va y avoir des disparitions mystérieuses autour d'elle, dont un proche qui va disparaître. Et elle-même va avoir une histoire d'amour assez compliquée avec un jeune homme. Et tout ça va s'entremêler. Donc on a vraiment deux lieux dans ce roman. On a le sud, la Méditerranée, la mer, la présence de la mer qui est très forte. Alors c'est une région que je connais bien puisque tu as dit autrice caladoise, mais je suis quand même toulonnaise à la base.
Parisienne à la base.
Alors je suis née à Paris, mais je suis restée 4 ans et demi. C'est pas beaucoup. Mais j'ai quand même vécu mon enfance, mon adolescence, les années qui comptent à Toulon. Mes parents sont toujours à Toulon, donc on a des attaches fortes avec le Var. En fait, ma mère était varoise, donc on a des attaches fortes avec le Var. Donc voilà, j'ai décrit des paysages que je connais bien. On a un petit cabanon au Pradé entre Toulon et Hyères. J'ai parlé d'une librairie, alors j'ai un peu transformé, mais c'est une librairie qui se trouve au Pradé, qui s'appelle Mille Paresses. Dans mon livre, je l'appelle Mille Promesses. Voilà, donc j'ai un peu. Donc j'ai vraiment eu envie que ces lieux fassent partie de l'histoire, soient des personnages de l'histoire. Et à un moment, Laurie va venir faire les vendanges dans le Beaujolais. Je me suis inspirée aussi d'un endroit que je connais bien, à Denicé, la Grange des Morts, des amis, Christiane et Peter, chez qui j'ai moi-même fait les vendanges et j'ai pris des notes pendant que je faisais les vendanges. Enfin, après, parce que pendant, on n'a pas le temps, mais juste les soirs même. Et voilà, je me suis inspirée de ça. Bien sûr, c'est toujours, je m'inspire et après je transforme les personnages. Mais je me suis inspirée de ces expériences et de ces lieux qui sont très différents, mais qui ont chacun leur charme, leur force, et qui sont pour moi, comme je disais, des personnages de mon livre.
Dans Fatoum, l'héroïne principale était Samia, même si Sohan et Abby n'étaient pas loin.
Oui.
Dans Poupée, Laurie, une jeune femme un peu moins jeune que Samia, qui tient aussi le rôle principal, encore une histoire de femme.
C'est vrai, je crois que je suis très concernée par les histoires de femmes, je ne sais pas pourquoi. Effectivement, c'est encore une jeune fille, qui est une jeune femme pour le coup, voilà, qui est l'héroïne du roman.
Ouais. Donc tu l'as dit, tu as changé de lieu puisque des quartiers, on se retrouve pas loin de la Méditerranée et de Toulon, une de tes villes de cœur. Tu as besoin de sortir un peu de ce béton, besoin de retrouver la nature et la mer?
Sûrement. Après, je l'ai pas analysé. Je sais que, voilà, j'ai beaucoup aimé écrire Fatoum. Après, je vais pas écrire deux fois le même livre. Et effectivement, quand je suis au Pradé, j'observe, je prends des notes. J'avais envie de, voilà, d'utiliser ce que je vois. Surtout que Laurie, dans le livre, il est dit qu'elle aurait voulu devenir peintre, être artiste peintre. Alors, elle a été contrariée en ça par son père, hein, qui a décrété que ce n'était pas un métier. Mais pour le coup, j'ai essayé qu'on voit ces paysages à travers les yeux de Laurie, hein, à travers son œil de peintre. Et ça me paraissait une bonne chose pour parler aussi de ce lieu que j'aime.
On voyage beaucoup dans ton roman. C'était peut-être moins le cas dans Fatoum. Tu avais besoin que tes personnages bougent. Tu voulais du mouvement.
Oui, je voulais du mouvement. Je voulais qu'il... Puis parfois, quand on est ailleurs, on a une autre perspective aussi. On met les choses à distance. On n'a pas la... Voilà, on n'a pas la même... comment dire ? On n'a pas la même vision. Donc oui, j'avais envie... parce que moi, j'aime pas m'ennuyer, j'aime bouger aussi.
Alors dans Poupée, il y a ces personnages... Il y a plusieurs personnages aux deux facettes, hein, que ce soit le père ou la mère de Laurie ou bien d'autres personnages qui vont arriver par la suite. On comprend mieux pourquoi Laurie est un peu perdue quand même.
Ah oui, forcément. Oui, c'est un environnement quand même...
Tu disais toxique.
Toxique et perturbant.
Ouais. Oui. Alors Poupée est aussi l'histoire du patriarcat, à savoir des hommes dominateurs et puis des femmes à qui on ne laisse pas de place. Après Fatoum, c'est une fois de plus ton côté féministe qui ressort.
Oui, il y a sûrement un côté féministe. C'est vrai que le père de Laurie, il est, pour moi, c'est un, comment on dit maintenant, un pervers manipulateur. Il est macho, il fait sa loi. effectivement, et ça, c'est aussi des choses que j'ai observées, malheureusement. Ce n'est pas des choses que j'ai décrétées ou que j'ai décidées.
Ça sent le vécu.
Oui, alors ouais. je ne l'ai pas vécu directement, mais indirectement, effectivement, je pensais à certaines personnes.
Ouais. Donc, outre le Var, tu disais, il y a le Beaujolais et puis c'est vendanges. Tu aurais pu choisir des vignobles varois, le premier producteur mondial de vin rosé quand même, à moins que tu préfères le vrai vin comme celui du Beaujolais.
Alors, il y a du vin rosé excellent dans le Var. Et c'est techniquement, c'est très difficile de faire du vin rosé. On a eu toute une visite par un viticulteur. Et il y a vraiment, c'est vraiment du vrai vin. Après, j'avoue que moi, je ne bois pas de vin rouge. Je n'y arrive pas. Je ne sais pas pourquoi. En revanche, dans le Beaujolais, il y a aussi également du très bon vin blanc. Voilà, moi, tout ce qui est bon, je prends. Hein. Je suis pas chauvine comme ça. Mais il faut pas dire que le vin rosé n'est pas du vrai vin, par contre, parce que là, ça ne marche pas.
Oui, c'est comme le budget. Alors, dans Poupée, tu utilises un vocabulaire, tu l'as dit tout à l'heure, très riche, et puis certains mots que l'on ne lit pas, qu'on ne lit pas souvent, ou alors qu'on ne retrouve plus dans ce qu'on appelle la littérature blanche. Et encore, tu as des formules très imagées pour raconter des histoires, parfois drôles, parfois très poétiques. C'est aussi ça la patte, le style Sylvie Calais.
Oui, alors là, je l'ai un peu peut-être poussé à l'extrême. Mmh. Mais c'est vrai que j'avais cette idée de peinture et de musique qui me trottait dans la tête. Enfin, les deux, de correspondance. Et effectivement, la poésie, des mots, la poésie des sonorités. Donc, c'est ma patte dans ce livre-là. Après, même si mon écriture est plus simple, entre guillemets, elle est quand même toujours très travaillée.
Alors, tes romans et tes livres sont des miroirs du social qui mettent en scène des gens ordinaires, comme il est indiqué sur le quatrième de couverture de Poupée. Tes personnages ne sont ni des héros, ni des policiers.
Non.
Que ce soit Samia ou Laurie, ce sont des histoires de vie assez proches de la réalité. Tu as du mal à te détacher de la réalité, justement. Tu pourrais écrire la science-fiction ?
Je n'ai pas essayé. Après, moi, quand je lis de la science-fiction, je trouve que c'est quand même très proche de la réalité. Mais sauf que c'est donné dans une autre époque, une autre dimension. Mais n'empêche qu'on retrouve tous les sentiments humains. et même, voilà, des fois, je suis même frustrée parce que je me dis finalement, on n'invente pas grand-chose puisqu'on retombe quand même toujours un peu sur les mêmes émotions, les mêmes grands thèmes, en fait.
La vie des gens ordinaires n'est pas tout le temps noire. Pourquoi, à l'image de tes romans, celle de tes personnages l'est ?
Ben moi, je pense que je suis un peu éponge et que j'absorbe le noir et le pas noir, mais que comme tout le monde, tout ce qui est noir, et il y a quand même pas mal de choses noires hein, de par le monde, m'impacte. Et je pense qu'inconsciemment, j'ai envie de m'en débarrasser quelque part, voilà, en l'écrivant. Et peut-être que le fait d'écrire, d'avoir une écriture travaillée, c'est aussi de mettre de la beauté, pour moi, hein, de la beauté dans ce qui est noir, voilà, pour essayer d'atténuer aussi cette noirceur. Mais oui, je pense qu'on est tous impactés par ce qui se passe autour de nous. Et que c'est ma façon à la fois de décrire le monde comme je le vois et puis de le digérer aussi, de digérer le monde. C'est aussi pour ça que j'écris, je pense. Le rendre digeste pour moi.
On dit que l'espoir fait vivre. Tes personnages ont forcément le même proverbe ?
Je ne sais pas. Ça va dépendre des personnages. Ça va dépendre des moments aussi. Parce que je pense qu'on a tous des moments où on peut adhérer à ce proverbe. Et des moments où on n'en a rien à faire. Donc, je ne sais pas si je pourrais leur prêter ce proverbe-là.
Roman noir ne veut pas forcément dire roman triste. Comment es-tu lorsque tu écris ça joue sur le moral et sur la vie de tous les jours. Jean-Michel pourrait peut-être en parler. Quand elle écrit.
Quand elle écrit, elle s'immerge complètement dans son écriture. Donc, l'environnement disparaît un peu.
Ah oui.
Oui, c'est-à-dire que je peux, si je commence à écrire, puis je me dis, bon, encore une minute, parce que là, je reprends ma phrase et tout. Et 3 heures sont passées, et je n'ai pas vu que 3 heures sont passées. En fait, je suis un peu en état d'auto-hypnose, je crois. Je suis complètement immergée. Alors, bon, comme je disais, j'ai beaucoup d'activités par ailleurs pour essayer de gagner ma vie. Il faut que je sorte de cet état. Mais c'est pas toujours facile pour moi parce que je suis dans une espèce de monde parallèle et d'énergie aussi qu'il faut couper, quitter pour retourner à des choses plus prosaïques.
Tu es dans ta bulle.
Voilà, je suis dans ma bulle. On peut le dire comme ça.
C'est ça. Ouais.
Complètement, ouais.
Alors, pour écrire Poupée, tu allais repérer les mêmes chemins, les mêmes lieux que Laurie et les autres personnages du roman. Tu t'es imprégné, oui?
Alors, de toute façon, dans le Sud, c'est des chemins, des lieux qu'on connaît très bien. J'avoue qu'on a un petit cabanon juste au-dessus de la mer avec des sentiers côtiers, sentiers des douaniers où on va souvent. Donc, parfois, je prends des notes. Alors, je ne suis pas une grande observatrice, je suis plutôt à m'imprégner comme ça. Mais parfois, je m'oblige justement à regarder en vue de prochaines descriptions, mais je ne le fais pas seulement à cet endroit, hein. Je le fais un peu partout. Et vraiment, ce sont des lieux que je connais, et comme les vendanges, voilà, c'est aussi quelque chose que j'ai voulu faire, que j'ai voulu tester, bien que ça fasse très mal au dos. Et que, voilà, à 51 ans, je crois, la première fois, et on a une amie qui m'a permis de faire les vendanges quelques jours, pour vraiment être juste dans ce que j'allais raconter par rapport à ça. Pour moi, c'est important, ça.
Alors, le 15 février 2025, notre ami Chris Lehache, un desperado hexagonal chantant, comme il est écrit, propose 2 journées de stage dans son univers d'écriture enchanté. La formation s'appelle « Écrire et interpréter une chanson ». Alors, ça s'adresse à quel public? Il faut forcément savoir chanter.
Alors, je crois que c'est le 14 et 15 février ou 15 et 16, je ne sais plus.
D'accord, enfin,
c'est
le week-end. 15, mais bon,
ouais, week-end, c'est le week-end mi-février.
14-15, quoi.
15-16, ouais. Mmh. Et en fait, non, il ne faut pas forcément savoir chanter, puisque à ce stage qu'il a déjà animé avec mon association Écriture et Papyrus, sont venues des personnes qui étaient en atelier d'écriture mais qui ne chantaient pas, ou des personnes qui chantaient mais qui n'écrivaient pas, ou des personnes qui ne faisaient ni l'un ni l'autre. Et il est très pédagogue, donc il arrive à embarquer tout le monde. Et ce qui est assez magique, c'est que le dimanche soir, il y a un petit spectacle d'atelier où les gens chantent en binôme la chanson qu'ils ont préparée pendant le stage. Et c'est toujours un moment très très chouette.
Il est question justement sur le site internet Écriture et Papyrus d'amorcer l'écriture d'au moins une chanson, voire écrire le tube de l'hiver. On ne doit pas s'ennuyer dans le stage avec Chris.
Alors ça, moi, je ne l'ai pas suivi, hein, le stage de Chris. Il faut demander aux participants. Mais en tout cas, ce que je sais, c'est que les gens qui ressortent de ce stage, depuis 4-5 ans qu'ils l'animent, sont vraiment positivement ravis. Et au début, il n'animait qu'une journée. Et du coup, il a doublé. Maintenant, c'est 2 jours. Et là, je sais que les participants de l'an dernier continuent à s'envoyer des mails. Ils ont fait un groupe dans lequel je suis et ils continuent à se donner des nouvelles et à se dire comment, à se donner des nouvelles par rapport à leurs différentes productions, etc. Donc ça, en 2 jours, ça a vraiment créé quelque chose entre eux.
Peux-tu nous parler des Dames du Noir, collectif créé il y a peu et dont tu fais partie, il me semble, parce qu'on n'est pas loin de l'esprit des Louves du Polar cher à Christelle Duchamp.
Alors oui, effectivement, moi j'aime beaucoup les Louves du Polar, j'en connais certaines puisque je les ai rencontrées dans des salons du livre. Je trouvais leur initiative géniale. Malheureusement, elles sont déjà beaucoup et elles ne peuvent plus intégrer ou assimiler d'autres personnes, en tout cas pour l'instant. Et c'est vrai qu'en tant qu'autrice du noir, on a besoin d'un peu de visibilité. Donc, j'ai proposé à ma collègue Maria Pemiskitelli, qui publie au Caïman, de cofonder un groupe un petit peu sur le même principe, mais beaucoup plus modeste. Et donc, on n'est pas du tout rival, hein, c'est plutôt, voilà, on s'inspire des Louves du Polar pour créer les Dames du Noir. Et on est 6 autrices de toute la France. Et on essaye de parler de notre actu sur les réseaux, de nous faire connaître tout simplement. Moi, c'est vraiment des gens, des autrices que j'ai connues, dont j'ai lu les livres. Je chronique aussi certains livres, donc voilà, dont j'ai apprécié l'écriture et la personnalité.
Quel sera le thème de ton prochain roman, si roman il y a?
Il y en a un, mais le thème pour l'instant est secret. Ah. Et il y en est vraiment au tout début. Hein, c'est vraiment au tout début. En revanche, théoriquement, devrait paraître un recueil de nouvelles collectif au Caïman bientôt, qui va s'intituler Sombre Enfance, dans lequel j'ai écrit une nouvelle qui s'intitule Vers la lumière et qui parle enfin, qui évoque le problème des mutilations sexuelles féminines dans certains pays d'Afrique. Alors, ça se passe en France, mais il y a, voilà, ça évoque ce problème-là. Et c'est vraiment un problème qui me tient à cœur, parce que moi, j'avais travaillé avec un groupe à Lyon, là, contre les mutilations sexuelles féminines, le GAMS à Lyon. Et on avait créé un livre qui s'appelle Les fleurs coupées. Et c'est vraiment un problème un peu méconnu, mais. En France aussi, il y a des excisions comme ça un peu sauvages, des fois toutes jeunes filles, même des enfants. Et j'ai trouvé important d'écrire sur ce thème.
Bien. Il est tout à l'heure, nous évoquions les séances de dédicace. Oui, oui. Il est l'heure de passer à la rubrique 4e de couverture.
Je ne vous connais pas, je vous frôle, là sur le cœur, épaule contre épaule, sur les 4e de couverture. Nous cherchons la même aventure sur les 4e de couverture.
4e de couverture, ce sont nos coups de cœur, les propositions de la quinzaine et les dates des prochaines séances dédicaces. Sylvie, tout d'abord, quel est ton dernier coup de cœur littéraire ?
Mon dernier coup de cœur littéraire, c'est L'Allonge. J'espère que je n'ai pas écorché son nom, de Sarah Jolienne Fardel, il me semble, Fardel. Aux éditions Sabine Vespizer, qui est un roman qui évoque un couple, enfin surtout une femme qui a perdu sa fille et qui se retrouve dans les montagnes valaisannes, attachée par son mari et qui va tenter de faire son deuil, et tout en évoquant beaucoup de souvenirs d'enfance, en parlant de ses grands-mères. C'est un roman à la fois déchirant, mais avec une écriture tellement lumineuse que c'est vraiment... C'est pas un roman sur la mort, c'est, pour moi, c'est une ode à la vie.
Côté proposition de la quinzaine, notons le polar de Davide Longo, l'affaire Bramar aux éditions Point, le roman de Gérard Mordilla, Les vivants et les morts, 20 ans plus tard aux éditions Kelman-Lévy, le polar d'Audrey Brière, Les malvenus aux éditions Point, le livre de Marie Baléo, Les empoisonneurs aux éditions Grasset, le polar de Jacques Leleu, Neige rouge aux éditions Paulsen, le thriller de Linwood Barclay, Ces mensonges qui nous lient aux éditions Belfond, le polar d'Eva Björk Aegir Dottir, à peu près, le clan Snakeberg aux éditions Point, le roman de Vincent Kivi, Jusqu'à l'épuisement de la nuit, le convoi des tatoués aux éditions Anne Carrière, et le polar de Martine Blanchard, Fatale addiction aux éditions Jet d'encre. Eh bien, Roman de Gare, c'est terminé pour aujourd'hui. Sylvie Calais, merci d'avoir accepté l'invitation de Radio B et de Roman de Gare.
Merci.
Merci aussi à Jean-Michel. Sans chauffeur, hein, elle ne serait pas là, donc merci à Jean-Michel.
Merci.
D'avoir accompagné. Rappelons que ton dernier roman, Sylvie, Poupée, est paru le 5...
Le 25 novembre, on va dire.
C'est 25.
Ou 24.
Sur sur Internet, c'est marqué 5 novembre.
Novembre, j'aime bien cette date.
Aux éditions Caïman, comme ça, c'est le plus important.
Du Caïman.
Bon, on peut se procurer où, sans oublier Fatoum et tous les autres?
On peut se le procurer sur le site de l'éditeur, sur tous les sites. Bien sûr, dans les librairies, normalement, si votre libraire est sympa, il le commande, il n'y a pas de souci. C'est distribué par Pollen Diffusion et il n'y a pas de souci pour le commander.
On peut suivre ton actualité sur internet via ton site atout-écriture.fr et puis celui de ton association Écriture et Papyrus, écriture-papyrus.com,
oui,
ainsi que les inévitables réseaux sociaux.
Voilà, Facebook, voilà. Instagram, LinkedIn.
Voilà, et le site des éditions Caïman.
Voilà.
Sylvie, bonne chance pour la suite de tes aventures d'écrit.
J'ai juste pas dit que oui. Poupée était sélectionnée pour un prix, mais je peux pas dire lequel encore, mais je suis très contente.
Bien. Voilà, bonne chance pour la suite de tes aventures quand même.
Merci.
Tu me dis.
Écrivaine, autrice, comme tu veux.
C'est toi qui choisis.
Les deux. Hein.
Les deux.
Bien. Les deux.
Bonne séance dédicace.
Merci.
Et puis à bientôt sur Radio B.
Merci, à bientôt.
Bonne soirée.
J'ai un bien étrange pouvoir, mais n'est-ce pas une malédiction? Cela a commencé un soir, j'avais à peine l'âge de raison. J'étais plongé dans un roman de la bibliothèque rose. Quand j'ai vu qu'il y avait des gens avec moi dans la chambre close.